C'est ludique, 9h30, 10h.
Et bonjour à tous, bienvenue dans C'est ludique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit jeu qui s'appelle Pick It. Et puis, on retrouvera en fin d'émission Ludo pour faire un point sur toutes les news ludiques. Et pour commencer, c'est le coup de cœur de Théo Rivière. Salut Théo.
Salut, comment vas-tu?
Ça va bien toi?
Écoute, très très bien.
Alors aujourd'hui Théo, on va parler d'un jeu que peut-être personne ne connaît. Non, j'ai envie de dire que tout le monde connaît normalement, parce qu'il y a même de la pub hein, maintenant dans le métro à Paris, il y en a un peu partout de la pub, c'est le jeu Trio.
Oui, c'est ça, c'est marrant, parce qu'on discutait de ces nombreux coups de cœur dont on a pu discuter ensemble, et je me suis dit, est-ce que j'ai déjà parlé de Trio ou pas? Et tous les deux, on avait un petit doute, mais on croit que non.
Ouais.
Et ça me fait plaisir d'en parler, parce que c'est un jeu que je trouve vraiment absolument extraordinaire en de nombreux points. Et effectivement, normalement, vous en avez déjà entendu parler, mais pour les quelques dans le fond qui suivent pas très bien, je me suis dit que j'allais refaire une déclaration d'amour à Trio, à quel point c'est un jeu extraordinaire, à quel point c'est édité avec brio par Cocktail Games, et réexpliquer un peu pourquoi est-ce que c'est si bien Trio et pourquoi je trouve ça extraordinairement magnifique.
Alors, parle-nous de ce jeu de cartes qui cartonne partout, hein, qui a eu le Saludit d'or, qui a eu l'As d'or, qui a eu énormément de prix.
Ouais, Trio, c'est un jeu qui commence son histoire comme pas mal de petits jeux japonais, puisque son auteur Kayami Yano est japonais d'origine, à savoir par une micro-édition d'une version qui s'appelle Slaughter's Phantom Seven, d'un truc vraiment pas très joli, un peu auto-édité, qui est le fonctionnement assez classique des jeux au Japon, où la plupart des jeux sont découverts pendant un événement qui s'appelle le Game Market, où les auteurs et les autrices ont tendance à micro-éditer eux-mêmes leurs jeux. Souvent, il n'y a pas de maison d'édition derrière. Il y a vraiment une dimension de « Ok, tout seul, je vais faire mon petit jeu, je vais faire du graphisme, je vais engager un illustrateur, une illustratrice, je vais gérer l'impression, je vais en tirer 100, 200, 300 exemplaires et je vais le vendre pendant cet événement-là, en espérant que ça plaise à du monde, mais surtout pour me faire plaisir. » Il y a vraiment une dimension créatrice qui est très très différente de celle des auteurs et des autrices en Europe ou aux États-Unis, qui ont tendance, eux, par contre, à faire des jeux à destination des maisons d'édition dans l'objectif d'être édité. Dans la plupart des cas, bien sûr, il y a des contre-exemples. Et donc arrive Slaughter's Phantom Seven, qui, j'ai l'impression, à ce moment-là, passe un peu inaperçu au Game Market. En tout cas, j'en avais pas entendu parler.
Ouais.
On est en 2015 à ce moment-là. Hein, et derrière sort une première nouvelle édition de Trio, qui s'appelle cette fois-ci Nana, pour 7 en japonais, qui va bien avec le fait que le 7 fait gagner la partie potentiellement dans Trio, même si c'est très difficile de gagner avec. Et Nana, lui, par contre, se fait complètement remarqué par pas mal de monde. On commence à entendre parler un tout petit peu du jeu, mais surtout les maisons d'édition telles que Cocktail Games, mais il y en a d'autres, hein, Yellow est aussi un peu une spécialiste, qui regardent les jeux japonais dans la logique de les localiser ensuite pour le reste du monde. On sent que eux, Nana, ça ne passe pas inaperçu, quoi, ils le remarquent tout de suite. Et donc on a le droit derrière à Cocktail Games, qui nous amène donc Trio, avec quelques petits changements de règles par rapport à la version japonaise, notamment avec l'ajout d'un truc que je trouve merveilleux dans Trio et qui rajoute pas mal de plaisir de jeu, donc bien joué Cocktail encore une fois, à savoir une version par équipe qui permet d'augmenter le jeu. Et je crois qu'il y avait une variante pour deux joueureuses dans la version japonaise qui a pas été gardée, auquel j'ai pas eu l'occasion de jouer, mais c'est vrai que je m'imagine pas très bien jouer à Trio à deux. mais par contre, je m'imagine très bien jouer à Trio à six par équipe, qui est d'ailleurs le mode que je préfère de très loin, pour le coup.
Et quand on pense à Nana, il y a eu énormément d'éditions, hein, puisqu'il y a eu 3 éditions, si je dis pas de bêtises, de Nana, avec des cartes avec des petits animaux, des petits cochons, des petits moutons, enfin, il y a un peu de tout ça, quoi.
Ouais, ça a très bien marché, et comme c'est un jeu Trio abstrait, Nana aussi par extension, il y a eu des versions un peu brandées, un peu différemment, une version spéciale de Noël, une version avec des images un peu différentes. Peut-être qu'on verra, c'est pas trop la spécialité de Cocktail Games, mais Cocktail faire ça sur Trio, même si eux, ils sont partis sur cet habillage mexicain très très coloré là par Laura Michaud, qui a fait un travail vraiment exceptionnel. On l'avait déjà vu sur d'autres jeux Cocktail Games, je crois qu'elle est en interne, et qui nous offre un travail qui, à chaque fois, est absolument merveilleux. Et aussi une édition qui est un peu prestige, avec ces cartes 7 qui brillent un peu, là, vraiment très jolies. Et donc, je sais pas si Cocktail fera un peu le jeu du marketing en se disant qu'à un moment ils vont sortir un Trio spécial Noël ou un Trio spécial
peut-être, on ne sait
je
pas.
Ne sais pas quelle licence. Moi je suis déjà client hein, dans tous les cas, j'ai tellement jeu que j'achèterai toutes les versions.
Pourquoi pas faire un Trio comme Love Letter quoi, hein, version différentes versions.
Moi je suis là.
Donc Trio c'était c'est ton coup de cœur de cette semaine Théo.
Ouais, je crois que c'est pas loin d'être mon coup de cœur de l'année même, alors je crois qu'on en reparle.
Tu voulais nous dire encore quelque chose dessus ou c'est bon?
Ouais, j'ai un dernier truc parce que c'est souvent une chose que j'évoque sur Trio qui est magnifique. Ces trios, quand on est auteur ou autrice de jeu, on parle souvent du fait que on part de concepts un peu classiques qu'on a un peu retravaillés pour en faire quelque chose d'autre. Et une question qui revient régulièrement quand on fait de la création, c'est un peu genre, mais comment vous faites pour avoir des idées? Est-ce qu'à un moment il n'y aura pas plus d'idées? Est-ce que c'est pas fini? Évidemment à ça on répond, bah non, regardez tous ces chouettes jeux qui sortent chaque année.
Mais oui.
C'est encore possible de faire plein de très belles choses. Et Trio, je trouve, arrive à un tour de force qui est vraiment très très bien, c'est qu'au final, on n'est pas loin du jeu des 7 familles.
Oui,
on essaye de collecter des collections, on demande aux autres, ah, est-ce que t'as ça dans ta main? Et puis hop, mauvaise pioche, et puis il se passe des choses. Qu'un jeu dont tout le monde connaît les règles, plus grand monde y joue vraiment parce que bah ça quand même pas en termes de game design un chef-d'œuvre et on s'amuse pas de ouf au jeu de cette famille, mais là qui arrive à moderniser ça et en faire un jeu parfaitement contemporain.
Ouais. Donc Trio, on sait combien il y a d'exemplaires qui ont été vendus de Trio là depuis qu'il
Alors,
est sorti.
J'ai vu que Cocktail Games communiquait de manière absolument géniale comme ils ont l'habitude, mais un peu trichante.
D'accord.
Puisqu'ils ont communiqué sur 1 million de joueurs ont découvert le jeu.
Ah oui, ok.
Alors, je sais pas si ça veut dire qu'ils en ont vendu à peu près 300 000, parce que 300 000 fois 6 joueurs dans la confiture.
Voilà,
Mais moi, mon trio, par exemple, que j'ai acheté, il a été découvert par des dizaines et des dizaines de joueurs. Donc,
Je
sais pas exactement comment ils comptent, mais c'est un jeu qui a un succès phénoménal et qui est parti pour durer, je pense.
Mais et puis, en général, quand tu le fais jouer à des personnes qui n'y ont jamais joué, bah, tout de suite, ils vont dire « Ah bah, je vais aller l'acheter, là. Ça, c'est sûr. Celui-là, je l'achète. »
Ouais. C'est un truc exceptionnel. Et puis, c'est une boîte suffisamment pas chère pour assez dans 2-3 en rab.
Ouais, voilà.
Ça, vous allez faire jouer vos copains et vos copines. Et puis, quand ils aiment bien, vous dites « Allez, je t'offre ma boîte. » Et puis, hop, vous en prenez une nouvelle et c'est reparti.
Et puis, quand les cartes, ils s'abîment, bah, tu reprends une nouvelle boîte. Hein. Ça évite de les sliver parce que ça coûte plus cher de les sliver que d'acheter une boîte de trio.
Clairement. Je suis d'accord avec ça.
Merci beaucoup Théo et on se retrouve la semaine prochaine.
Avec grand plaisir, bonne semaine, merci à toi.
Salut chat.
En famille ou avec des amis, c'est ludique, c'est l'heure de jouer.
Je vous propose aujourd'hui dans C'est ludique une rencontre étonnante. Oui, entre les mechas, ces personnages utilisant ou incarnant des armures robotisées généralement de forme humanoïde, le plus connu bien sûr Goldorak, et les kaijus, des créatures étranges, des monstres géants que l'on peut retrouver dans les films japonais. Autant dire que le combat s'annonce intense et que ça va piquer. Ça tombe bien, voici Pikit, le premier jeu de Corentin Brand édité par Repos Prod, avec des illustrations signées Sylvain Repos. Alors dans Pikit, le but du jeu sera de créer la meilleure équipe de kaijus et de mecha, mais attention, on reste sur un jeu d'ambiance avec des cartes et des dés. En début de partie, vous allez piocher des cartes pour atteindre une valeur de 10, donc si vous piochez un 6 et un 5, hein, vous ne piochez que 2 cartes. Le but étant à la fin d'avoir le plus de points possible, bien sûr, mais vous pourrez aussi jouer les cartes pour leur effet. Sur la table, on va disposer 8 cartes de kaiju et 6 cartes mecha que vous pourrez récupérer en faisant un double avec les dés. Mais alors comment on joue? À votre tour, vous allez lancer 2 dés dans la boîte. Il y a une petite feutrine dans le fond de la boîte, ça remplace une piste de dés si vous n'en avez pas. C'est une très bonne idée de l'éditeur. Alors je lance les dés et j'obtiens un résultat. Je peux prendre une carte kaiju correspondant à la somme des 2 dés, ou une carte correspondant à la différence des 2 dés, ou une carte ou 2 cartes correspondant à la valeur de chacun des dés. Il y a vraiment plusieurs possibilités. Si je veux rien, je prends rien aussi. Et si j'obtiens un double, là je peux prendre le mecha correspondant à cette valeur. Par exemple, si j'obtiens un double 5, je vais prendre le mecha orange que j'ajoute à ma main. Si par la suite un autre joueur fait aussi un double 5, et il pourra tenter de me voler le mecha dans ma main. Il prendra par contre une carte au hasard. Je lui donne pas le mecha comme ça, faut pas rêver non plus. Mais ce n'est pas tout. Si je prends un 8 sur la table, je dois prendre tous les 8 de présent face visible. Vous allez me dire que le but du jeu, c'est de faire le plus de points, que vous n'avez pas intérêt à prendre le 1. Sauf que le joueur avec le plus de 1 en fin de partie obtiendra 15 points. Alors avant, vous pouvez jouer une ou plusieurs cartes de votre main pour en appliquer les effets. Attention, du coup, vous défaussez vos cartes. Le 2 va permettre de relancer les dés, le 4, vous volez une carte dans la main d'un autre joueur, le 5, vous prenez la première carte de la pioche, le 6, vous pouvez le jouer quand un autre joueur vous attaque, ça annule l'effet de sa carte. Je vous ai dit que vous pouviez voler une carte. Oui, mais si vous le faites, attention à ne pas piquer la carte numéro 3, car elle vous inflige une blessure. C'est moins 3 points directs. La partie s'arrête quand la pioche est vide. Vous comptez les points de vos kaijus, plus vos points de mecha présents dans votre main, moins les blessures. Celui qui a le plus de points l'emporte. Pick It, c'est un jeu où clairement vous allez tout faire pour avoir les meilleures cartes, car il faudra faire attention à garder les points, mais si vous le faites, eh bien les adversaires savent que vous avez pris des belles cartes et auront tendance à venir vous les voler. Un jeu d'affrontement d'effets avec beaucoup d'interactions, le dilemme sera je défausse la carte pour faire son effet ou je garde ma carte pour faire des points, sachant très bien que je pourrais me la faire voler. Avec son format de cartes atypique, Pick It va vous offrir de belles parties, en plus les règles s'apprennent en moins de 3 minutes.
C'est Ludique, votre émission sur les jeux de société.
Et le lundi, on fait un point sur les différentes news ludiques avec Ludo. Salut Ludo.
Salut Matt, bonjour à toutes et à tous.
Alors aujourd'hui, tu as pas mal de news.
Ouais, écoute, on a deux petites sorties, une très prochaine et une un petit peu plus lointaine. Une info de ce matin très croustillante et puis peut-être une info KS si on a le temps.
D'accord, eh ben allons-y.
Alors, est-ce que tu embarquerais sur un bateau qui s'appelle l'Instable ?
Non, pas vraiment.
Bah,
non,
pas
non,
forcément.
Non,
hein.
Non, non,
eh
bien,
écoute, Yellow va nous permettre de le faire à partir de la fin de la semaine, parce que c'est le nom du navire du jeu L'Ombre du Kraken.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Bah, écoute, c'est un jeu qui n'est pas du tout coopératif, où on va jouer des marins, des pirates, des cultistes, enfin bref, plein de choses asymétriques dans ce jeu. C'est un jeu de déduction à rôle caché. Alors, figure-toi qu'on peut jouer de 5 à 11 joueurs.
Ouais, donc, il faut déjà 5 joueurs.
Une des particularités du jeu, il faut être minimum 5. Effectivement, ça dure entre 45 et 90 minutes, voire plus, je pense. Du coup, voilà, on doit. Chaque faction va avoir un but particulier. Il y en a qui veulent manœuvrer le navire vers le triangle des Bermudes. Il y a un cultiste qui veut invoquer un kraken. Enfin, bon, bref, en fait, ça va être le joyeux bordel sur ce bateau-là. Et donc, c'est Yellow qui va nous le présenter. Et ça a été créé par Michael Chenet, Tobias Imich et Hans-Joachim Ho, et c'est illustré par James Churchill et Hendrik Noack, et ce sera à partir de 12 ans, et ça sort en fin de semaine.
Un loup-garou des mers.
Ouais, un loup-garou qui sait nager, quoi.
Ouais, c'est ça. Autre news.
Alors, en parlant des mers, eh ben, la transition est toute faite.
Oui.
Là, ça arrive le 10 mai chez Catch Up Games, ça s'appelle Rivage.
Oui.
Alors, Rivage, qu'est-ce que c'est ? On l'a découvert tous, j'imagine toi aussi, à Cannes.
Oui.
Physiquement parlant, on va dire. C'est un jeu d'exploration dynamique. On va naviguer d'île en île. C'est aussi compétitif. Et la petite particularité, c'est que c'est un peu une nouveauté dans les truc and write, dans les jeux à cocher, parce qu'en fait, il y a une petite mécanique originale, c'est qu'on va se passer en fait les cartes, et sur les cartes, on va cocher des choses qu'on va répertorier ensuite sur son plateau personnel, et ensuite on va drafter.
Ouais, on va passer la carte. Ouais.
Voilà, au fur et à mesure, il y aura moins de choix en fait sur les cartes, sur ce qu'on va cocher nous sur notre plateau individuel. Alors il paraîtrait un scoring un peu alambiqué qui va finir tout ça. On va se promener donc d'île en île, d'archipel en archipel. Moi j'aime beaucoup la direction artistique du jeu. Et puis voilà, c'est à partir de 8 ans, de 1 à 5 joueurs, à partir des parties environ 20-30 minutes. On doit ça à Joachim Thom, donc l'auteur de Colorado et de Wild Space chez les Ketchup il y a quelques années.
Ouais, les Tribus
et
du Vent aussi, non ?
Pardon ?
Les Tribus du Vent, il me semble aussi, non ?
Et aussi, exactement. Nayad, aux illustrations. Nayad qui a fait Differentio, Tokaido Duo et plein d'autres jeux. Hein, on a l'habitude de ça. Donc ça sort le 10 mai.
Très bien. Une petite news.
Ensuite, une petite news donc qui est tombée ce matin, là, il y a 30 minutes.
Ah oui,
figure-toi que un géant du jeu européen et américain qui s'appelle Goliath a racheté Lucky Duck Games, qu'on connaît bien nous aussi sur le marché du jeu de société moderne. Donc c'est tombé ce matin. Goliath, c'est quoi ? Goliath, c'est une grosse société de jeux qui est arrivée en 1980, qui a été créée en 1980. C'est le numéro 3 aux États-Unis.
Ouais.
Excuse-moi du peu. Alors, on leur doit des jeux comme Cuistot Dingo. Bon, ça, je sais pas si tu as essayé, mais c'est
non,
assez
c'est
marrant.
Pas...
Un peu de dextérité, hein, ça te dit rien.
Non, aussi, ça me dit quelque chose, malheureusement.
Ah, il y a beaucoup de jeux en boîte en carton très fin avec du matériel en gros plastique à l'intérieur, mais pas que, parce qu'on leur doit aussi des jeux qui sont installés depuis belle lurette. ça aussi, c'est une expression qui existe depuis belle lurette, ouais. Comme le Rummikub ou le Triomino, qui sont des jeux abstraits, des jeux de lettres, etc., qui sont installés dans le paysage ludique depuis des décennies. Rachat de Lucky Dog Games. Donc, Lucky Dog Games, eux, ils datent de 2016. Ils sont un peu spécialisés dans les jeux de société hybrides, comme c'est quoi ? C'est des jeux avec des applications smartphone, hein, pour petits et grands, comme Chronicle of Crime, par exemple.
Mmh. Et ils font aussi pas mal de localisation.
Exactement.
Par contre, du coup, ce qui va se passer, il va falloir qu'on ait des petites news là, parce que Goliath aujourd'hui est distribué par Pizzy Games. Lucky Duck par Neoludis, qu'est-ce qui va se passer là ?
Alors ça, moi je ne tire pas sur la comète, hein, parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Si tu veux, ça c'est très récent comme
mais
news.
Oui.
Par contre, ce qu'on sait, c'est que Lucky Duck va pouvoir bénéficier d'un réseau de distribution
important,
et d'achalandage hyper important, et notamment même si Lucky était déjà présent aux États-Unis et marchait très très bien avec sa gamme de jeux aux États-Unis, t'imagines bien que ça va ouvrir quand même le champ des possibles.
Oui.
Les nouvelles sont rassurantes aussi au niveau de la création et de la créativité, et aussi de l'indépendance de Lucky, qui devient donc un studio de Goliath. Donc le patron de Goliath a bien indiqué qu'ils avaient les mains libres et qu'ils pouvaient continuer le choix de leur jeu, hein, parce que on verra ça, hein, au fur et à mesure. Moi je pense qu'effectivement ça, sur les gros rachats comme ça, de toute façon c'est soit il se passe rien et en fait c'est un purement financier, mais
il
n'y a pas de conséquences sur la création, ou soit il y a une main mise sur quelque chose et on essaye de transformer le truc. Moi, je pense que...
Ça va rester comme ça, peut-être, pour l'instant.
Ouais, je pense que Lucky a été racheté parce que c'est une marque qui devient importante.
Importante, ouais.
Avec des jeux qui sont assez singuliers pour se démarquer du marché. Ils font aussi la part belle à des jeux qui, comme tu as dit, localisés via Kickstarter, etc., etc. Ils font beaucoup de localisation aussi, donc ils sont présents sur beaucoup de marchés étrangers. Donc moi, ça me paraît pas aberrant en fait, hein, qu'on ait ce genre de rachat, et je pense que c'est plutôt bon signe pour le marché du jeu.
Très bien. Eh ben, merci beaucoup Ludo pour toutes ces informations.
Avec plaisir. Passez une bonne semaine.
Et puis on se retrouve la semaine prochaine.
Jouez bien. Salut,
salut Ludouf.